Cascodeur Podcast, épisode 241. Interview Cloud IDE avec Sun Tan et Marc Dumais. Enregistré le 30 octobre 2020. Soutenir les cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Je vous encourage d'ailleurs à changer votre devise en devise euro. Pour cela, vous pouvez arrêter votre souscription et recréer votre souscription en euros. C'est ce qui est le plus simple. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Aujourd'hui, nous discutons d'IDE, donc d'éditeur logiciel intégré. Et puis spécifiquement d'IDE quand il n'est pas sur votre ordinateur et qu'il est dans le cloud, dans les nuages. Et pour discuter de ça, eh bien, j'ai deux invités. J'ai d'abord Marc Dumais. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Et puis j'ai Sun Tan bonjour Sun aussi.
Salut.
Et puis, je vais peut-être vous laisser deux minutes pour vous présenter, expliquer un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. Voilà, votre vie, votre œuvre, comme j'ai tendance à dire. Marc, peut-être d'abord?
Oui, bonjour. Mon nom est Marc Dumais. Depuis la fin des années 90, je suis un gradué de l'École polytechnique de Montréal, bachelier en génie informatique. Mon intérêt dans les ordinateurs et la programmation remonte à un Noël du milieu des années 80, quand mes parents ont acheté un micro-ordinateur qui s'appelait le Coco 2 ou Color Computer 2 de Tandy. Et malgré les limitations de cette machine vue avec des yeux d'aujourd'hui, je me suis beaucoup amusé avec cet ordinateur. Après ma graduation, peu de temps après, j'ai commencé à travailler chez Ericsson. Et puis, j'ai travaillé sur des outils internes, j'ai travaillé sur des nœuds de télécommunication. Et depuis environ peut-être 6-7 ans, je travaille avec l'open source. Donc, le but étant d'améliorer les outils qu'on donne à nos programmeurs chez Ericsson.
D'accord. Ça, c'est intéressant. Du coup, on n'associe pas forcément Ericsson à l'open source. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait. Donc là, ce que tu dis, c'est que Ericsson, il utilise des choses open source pour améliorer le dev en interne et du coup, contribue ça en open source. C'est ça le résumé?
C'est exactement ça, oui. Donc, on ne vend pas ces produits-là, Ericsson, mais on les utilise à l'interne.
D'accord. Pas mal. Sun?
Ouais.
Qui es-tu?
Alors, je m'appelle Sun Tan. Je travaille chez Red Hat comme software engineer ou ingénieur logiciel. Ça fait 6 ans, je crois, que je bosse sur le projet Eclipse. Donc, on va en parler, bien sûr, évidemment, tout à l'heure. Soit en étant payé, donc, que ce soit chez Serly ou chez Red Hat ou pendant mon temps libre. Donc, ça fait un petit moment. Pendant mon temps libre, je fais de la bière dans ma cuisine et j'anime.
Je confirme.
Tu peux confirmer qu'elle est bonne. Hein.
Ouais. Enfin, je ne confirme pas dans ta cuisine parce que je n'ai jamais vu, mais je confirme que tu fais de la bière et que tu as le matériel.
Ouais, et sinon, ce que je fais d'autre, c'est que j'anime le Java User Group à Paris. Et d'ailleurs, je voulais faire la promotion d'un événement qui s'appelle le Youngblood au Paris Jug, qui donc aura lieu en janvier 2021. Et l'idée, en fait, c'est de proposer à des speakers, speakeuses qui n'ont jamais speaké ou qui ont très peu speaké, qui ont très peu parlé, on va dire ça en français, sur d'un sujet tech ou pas. Donc, il y aura 4 talks qui vont être sélectionnés. On a un CFP qui se termine mi-novembre, je crois. Donc, c'est le dimanche. C'est le 15 novembre, exactement. Et donc, on va en sélectionner 4. Et il y aura des séances de coaching à partir de fin novembre notre équipe aidera chaque speaker, enfin, chaque nouveau speaker à préparer donc leur talk pour janvier. Et bien sûr, ça se fera dans la bonne humeur et toujours dans la bienveillance. Et point important, c'est que le gagnant remportera le droit de rejouer son talk à DevOps France 2021. Et un truc qui n'est pas habituel, c'est que ça sera en virtuel.
Le Youngblood.
Voilà, et voilà, c'est tout. C'était
d'accord. Alors Marc, qui avait un peu d'appréhension en disant, tu sais, moi j'utilise quand même beaucoup de termes anglais, je ne sais pas si ça va bien passer, etc. Je pense que Sun t'a relaxé largement. Il a dû placer un quart de termes anglais là.
Ah, j'essaie de me contrôler, mais c'est... Ouais.
Ouais.
Ouais, je me suis dit qu'avec alors, Marc, il y aurait la pression de qu'il faut absolument bien parler français parce qu'ils sont, sont parfois un peu titillés dessus, mais en fait...
Bah, je sais pas, parce que Marc, tu bosses avec des... Je sais pas où tu es exactement, mais tu bosses avec pas mal d'équipes anglophones aussi, j'imagine.
Oui, exact. Je suis à Montréal, puis Ericsson étant une compagnie internationale, l'anglais est la plupart du temps la langue commune.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur les idoles en cloud, et puis on va utiliser... Enfin, on va parler de deux briques spécifiques hein, que sont Eclipse J et Eclipse Theia. Laquelle ça a du sens d'expliquer d'abord, d'ailleurs ? Vous pensez peut-être Theia parce que c'est plus fondamental ou comment vous voyez les choses ?
Je pense Theia d'abord.
Ok. Comment ça se prononce d'ailleurs officiellement ?
Parce que... on le prononce Theia. Que je sache, il n'y a pas vraiment de façon bonne ou mauvaise de le prononcer. La première chose à comprendre, c'est que Eclipse Theia est un framework. Donc, c'est pas un produit, c'est pas un IDE, une application IDE en tant que telle, mais c'est un framework pour développer des applications IDE. Les caractéristiques de Theia qui font que Theia est plus intéressant que d'autres compétiteurs, c'est entre autres le haut niveau de personnalisabilité.
Capacité à personnaliser.
Oui, on peut la personnaliser puis l'étendre. Donc, c'est pas une application IDE qui va être fixe. Quiconque peut, s'il veut, utiliser Theia, le framework, pour développer une application qui va répondre à leurs besoins. Donc, ça fait bientôt 4 ans que le projet est démarré. Ericsson est un des deux cofondateurs avec une petite compagnie allemande qui s'appelle Typefox. D'autres choses qui rendent Theia un peu spécial que aucun autre framework peut fournir que je sache, c'est le fait qu'on n'a pas développé deux applications, une pour le desktop, une pour le cloud. On peut développer une seule application et puis après ça, avec très peu de modifications, très peu d'efforts, pouvoir la rouler dans un ou l'autre des deux modes.
D'accord.
Et puis, oui.
Juste petite question parce que quand on dit c'est une librairie ou un framework plutôt. Ça veut dire que moi, je peux le démarrer dans mon... Je ne sais pas si c'est du Java ou pas, mais si c'est du Java, je peux le démarrer dans mon main et l'utiliser. Mais est-ce que ça veut dire que ça surface quand même des interfaces graphiques d'une manière ou d'une autre ou c'est justement un framework qui s'abstrait des interfaces graphiques et puis quelqu'un qui va vouloir faire une solution plus complète va justement rajouter sa couche graphique?
Premièrement, c'est développé en JavaScript et TypeScript. Donc, c'est pas en Java. Et puis, ça contient
presque
donc...
Java, JavaScript.
Ça contient la librairie UI qui est utilisée, c'est le browser. C'est HTML.
D'accord.
Donc, on n'a pas à la fournir autrement. C'est déjà dans le browser, soit dans le browser standalone ou dans le browser qui est fourni avec Electron.
D'accord. Yeah.
Et puis, une autre des caractéristiques très importantes d'Eclipse Theia, c'est le fait que c'est pas open source de surface, c'est vraiment open source. Donc, quiconque peut vraiment faire ce qu'il veut avec. Contrairement à d'autres projets open source qui sont, peut-être on va donner le 80%, mais on va garder une partie, les joyaux de la couronne propriétaire. C'est pas le cas.
D'accord, pour Eclipse Theia. Tu parles de VS Code, là, j'imagine, mais c'est ça? Okay.
Oui, ouais. Entre autres. Notez que VS Code.
On va des concurrences pas... après, d'ailleurs.
Mm-hmm. Notez que VS Code est juste une application, cependant. C'est pas un framework. On peut avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à VS Code, mais si on veut le modifier plus profondément, ça va être un casse-tête à la maintenance.
Ouais. OK. Eclipse J, du coup.
Alors.
C'est juste que vous avez renommé, c'est ça? Puis comme ça, vous faites rien et puis c'est bon, vous utilisez Eclipse Theia.
Ouais. On fait quand même plus que juste Theia. Donc, on va dire que Eclipse J, c'est un Kubernetes Native IDE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense que là, il y a pas mal de choses qui sont Kubernetes Native ou Cloud Native. Mais on sait pas trop ce que ça veut dire en général. Ça veut dire que, alors en tout cas pour nous, ça veut dire que J tourne sur Kubernetes. C'est-à-dire qu'on va, pour pouvoir lancer chez, il faut Kubernetes. Et donc, vous pouvez faire tourner ça dans le cloud, ou bien localement, si jamais, si vous avez, par exemple, un Kubernetes local comme Unicube. Et donc, le développeur va accéder à l'interface utilisateur à travers, avec le navigateur, le browser. Dans Che, on a le choix de l'éditeur, enfin de l'éditeur de l'IDE, qu'on peut choisir en fait à travers un fichier de configuration dont on parlera tout à l'heure. Et l'IDE par défaut, c'est Eclipse TIA, qu'on a un peu adapté pour que ça marche bien avec Kubernetes. Et donc, à travers TA, Che est complètement compatible avec les extensions Visual Studio Code. C'est un IDE qui est complètement fonctionnel et comparable avec d'autres IDE desktop traditionnels en termes d'expérience utilisateur. Et il supporte pas mal de langages de programmation comme Java, TypeScript, PHP, .NET, Python et même COBOL.
Parce que je pense que je suis pas le seul à être un petit peu confus. Donc, le TIA, c'est un framework d'IDE, d'accord? Et toi, tu me dis, Eclipse, c'est un IDE, donc Cube Native, mais c'est un IDE. Et je peux choisir l'IDE que je veux en termes de... Alors, ça fait trop de réutilisation du même nom, là. Alors, peut-être qu'il y a un diagramme d'architecture qu'on pourrait expliquer pour comprendre un peu les...
Ok, bah alors je vais le faire autrement. Che permet de configurer et de générer des environnements de développement.
D'accord.
Et ces environnements-là vont contenir donc un IDE et des conteneurs pour l'outillage.
D'accord, donc il y a beaucoup plus la notion de projet, cycle de vie de ce truc-là, des choses qui ne sont pas forcément dans la... Donc quand on dit TIA, d'ailleurs, on dit que c'est vraiment le corps de je fais des modifications de fichiers, je fais de l'autocomplétion et ces choses-là, c'est ça? Ou c'est un peu encore entre les deux?
C'est exactement ça. C'est exactement TIA pour moi, c'est vraiment l'application web qui est l'équivalent d'un VS Code pour le desktop. Donc c'est
D'accord. Alors, on va parler de l'écosystème un peu. Alors, évidemment, il y a les IDE, on va dire, classiques, IntelliJ IDEA, avant Eclipse, je ne sais même pas comment on l'appelle, mais Eclipse classique, quoi, Eclipse IDE. Mais ça c'est on ne va pas appeler ça des IDE dans le cloud. Mais dans la notion d'IDE dans le cloud, il y a eu quand même pas mal de foisonnement et de rachats. Enfin, disons que l'écosystème, il est assez riche. On a parlé de VS Code, pardon, pas Visual Studio, mais VS Code. Il y a GitHub qui donc refait tout en ce moment, donc il y a un truc qui s'appelle Code Spaces. Amazon, il y a quelques temps maintenant, avait racheté une boîte qui s'appelait Cloud9 et du coup, ça fait partie de l'offre AWS. J'imagine que j'en oublie. Voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus autour de cet écosystème? Donc, Théa, tu nous avais dit, il est 100% ouvert. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont 100% ouverts comme ça ou c'est vraiment un des différenciateurs majeurs, par exemple, par rapport à la concurrence?
Oui, que je sache, il n'y en a aucun autre qui est ouvert puis qui fait partie d'une fondation comme la fondation Eclipse qui s'assure que les contributions vont être faites de façon neutre, sans égard à la compagnie d'où elle origine. Que je sache, il n'y en a pas d'autres qui font ça et qui peuvent aussi avoir un target qui est fait pour rouler sur le desktop, donc dans le cloud. D'accord. Ou non.
D'accord. OK. Du coup... Donc là, en fait, quand j'ai préparé cette interview, enfin préparer c'est un grand mot, mais quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai essayé Che effectivement et on peut l'essayer en ligne. Et puis justement, j'avais vu Théa dans les logs, mais donc là on a expliqué comment ça se passe. Donc j'imagine que quand je démarre Che, il me déploie un environnement qui va contenir, enfin qui du coup quand je vais y accéder, donc avec mon navigateur, va me télécharger donc la partie JavaScript TypeScript de qui est Eclipse Theia, et c'est ça que je vois quand je commence à éditer mon code.
Ouais, exactement, c'est ça.
Ok. Des choses à rajouter ou c'est je suis bien là.
Bah, il y a Theia par défaut, mais tu peux très bien utiliser. Alors on en a comme exemple. Enfin, par exemple, on peut très bien remplacer Theia par IntelliJ, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. IntelliJ ou l'IDE Eclipse classique à travers Broadway D et Broadway D. qu'est-ce qu'on
peut... Broadway D, c'est quoi?
Broadway D, alors en fait, c'est ce qui permet de mettre du JTK en mode web. Parce que du coup, Eclipse IDE utilise SWT, qui dans Linux utilise JTK.
D'accord.
Et avec Broadway, tu peux en faire en fait l'exposer en mode web, et donc accessible à travers le navigateur. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on rend en tout cas Eclipse, enfin l'Eclipse classique, disponible dans Che.
D'accord, mais dans ce cas-là, du coup, tu fais tourner Eclipse classique sur le serveur.
Exactement.
Ok. Et du coup, il y a Broadway qui fait l'interface et qui amène en gros ce qui est rendu au niveau serveur est transformé en web et ramené côté client qui voit ça. D'accord. Et pour IntelliJ, c'est la même chose ou c'est
alors,
tu démarres l'IntelliJ?
Alors moi, je suis pas trop courant, mais de ce que j'ai vu, ça utilisait un serveur VNC. Et en fait, donc dans le navigateur, tu auras un client VNC.
C'est un peu pareil, sauf que là, tu envoies les frames et pas du web. OK. Et du coup, tu disais qu'Ericsson était cofondateur de Theia, Marc.
Exact.
C'était quoi votre objectif, en fait? Pourquoi vous avez démarré? On se dit pas, tiens, mes développeurs sont pas super productifs, du coup, je vais écrire un IDE aussi.
ouais, nous on avait des cas où certains logiciels sont très très secrets et puis il faut les développer à partir de serveurs sécurisés. Donc avec par exemple Eclipse classique, c'était pas évident de fonctionner comme ça pour les développeurs. Donc avec quelque chose comme Theia qui permet de rouler la partie back-end sur un serveur quelconque puis de l'accéder à distance, c'est possible alors de coder dans l'environnement secure sans transférer les fichiers par exemple sur un laptop d'un développeur pour question de sécurité. Donc au début c'était ça l'idée en gros, mais c'est devenu beaucoup plus par la suite.
D'accord. Et quand tu dis que c'est un framework, vous l'utilisez quand même en tant que... Enfin, c'est votre solution finale ou vous avez un peu comme Che des couches autour qui font que votre IDE, c'est vraiment, ça inclut Theia?
Ça dépend peut-être de l'usage. On l'utilise entre autres des applications basées sur Theia comme environnement de développement pour le desktop. Et puis on l'utilise aussi comme intégré dans un workspace server, un peu comme Che ou Gitpod qu'on a à l'interne. Donc quand c'est pour desktop, c'est un peu plus équivalent à VS Code. Quand c'est dans le cloud, on peut l'accéder à distance, serveur sécurisé, tout ça.
D'accord. Ok, je suis désolé, j'ai posé beaucoup ces questions-là parce que je pense que ça peut être difficile pour les gens qui connaissent pas de bien positionner les briques. C'est pour ça que j'ai pris la même question et que j'ai tourné comme ça sous 5 angles. Et puis, ça me permet moi aussi de comprendre, donc de toute façon, c'est bien. On va au quotidien. Donc, Theia, on dit soit Theia, soit donc il est embarqué avec la partie web, etc. Soit c'est un desktop IDE. Donc, un desktop IDE, vous téléchargez, vous avez un zip, ça déploie un .exe ou l'équivalent Mac ou l'équivalent Linux. Et en gros, ça fait tourner un Chrome ou quelque chose comme ça en tant que moteur et vogue la galère.
C'est ça. Donc, ça utilise Electron exactement comme VS Code. Et puis, Electron a une intégration de Node.js et de Chromium. Donc, c'est exactement les mêmes composants qu'en mode cloud, seulement que les deux morceaux roulent localement sur le laptop.
D'accord. On en reparlera après quand on sera dans la section sous le capot. C'est justement les questions de latence quand on veut faire un truc qui travaille et desktop et serveur. Ça va être un petit challenge intéressant. Si on passe à EclipseJ, là, qui est cette gestion de mes environnements, pourquoi, je ne sais plus si quelque part on parle. Non, oui, pourquoi les gens ils seraient intéressés à utiliser cette approche-là, en fait, plutôt que dire bah non, mais attends, moi, il y a toujours eu, je télécharge Git, je pointe vers le repo, je télécharge, il y a les fichiers point quelque chose, le gars démarre, il télécharge l'IDE qu'on a standard, sur lequel on a standardisé, et puis ça marche, oui. Donc, quel est l'avantage par rapport à...
Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est pourquoi utiliser Che alors que t'as un IDE qui fonctionne super bien et que Che va peut-être apporter à peu près les mêmes fonctionnalités, mais peut-être un peu moins. Moi, ce que je vais répondre, c'est que Che tourne sur Kubernetes et donc ça a plusieurs avantages que tu vas pas forcément trouver dans une expérience desktop. Par exemple, Che s'inspire de l'expérience l'infrastructure as code. Et avec Che, en fait, on a ce qu'on appelle le dev file, qui est donc un fichier YAML. Qui est un peu comme un compose file, un Docker compose file, si tu connais, où tu décris donc les différents conteneurs de ton application. Donc par exemple la base de données, le front-end, le back-end, un microservice. Et dans ce dev file, on va en fait y rajouter des informations pour le donner à l'IDE et pour qu'il puisse générer donc certaines choses comme par exemple les projets à cloner. Ou les commandes que tu vas utiliser régulièrement lorsque tu vas coder ton application. Ça va aussi t'installer, tu vas pouvoir aussi définir les extensions VS Code que tu veux utiliser et éventuellement des conteneurs où tu vas pouvoir lancer des builds, donc ce sont des conteneurs avec les bonnes dépenses. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce fichier là et pas avoir à se taper en fait un readme file super long pour générer ton environnement, enfin pour configurer ton environnement de développement. Là en un clic et en quelques minutes, 1 minute 30 en général, tu peux donc générer un environnement de développement qui est complètement fonctionnel pour ton application, pour ton projet. Et donc, ça te génère donc des workspaces qui sont complètement isolés. C'est-à-dire que tu peux en créer, tu peux créer un workspace par tâche, par exemple.
Ouais.
Et travailler donc sur plusieurs tâches en même temps ou de manière séparée. Donc, elles sont aussi sécurisées, du coup, parce que du coup, ça tourne dans le cloud. Comme le disait Marc, il n'y a pas de fichier qui va se retrouver sur ton... sur ton laptop, et quand tu penses en fait à ce qui se passe aujourd'hui, donc on est de plus en plus à travailler en télétravail, le network local n'est pas forcément super sécurisé. Et ces workspaces sont aussi jetables, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de travailler, ben tu peux le supprimer tranquillement. Une fois que ta pull request est mergée, par exemple, tu peux de manière sécurisée, supprimer ton workspace et en régénérer un tout nouveau avec des nouvelles sources. Et c'est fait à la demande. Et sans avoir à installer quoi que ce soit sur ta machine. Donc, voilà.
Donc ça, du coup, la force que je vois, c'est qu'effectivement, on peut très bien dire, on va essayer de cloner et pseudo-standardiser la même config d'IDE au sens classique pour tout le monde avec le fichier point, je ne me rappelle plus lesquels là, mais les points quelque chose.
Le dev file.
Non, pas celui-là. Enfin, je veux dire le point IDEA ou le point, l'équivalent Eclipse. Mais même si tu arrives à faire tourner ça, et souvent, il y a des, Il y a des, comment on appelle ça, des répertoires qui sont absolus par d'une machine à l'autre. Donc c'est toujours un peu la, un peu pénible ce genre de choses. L'autre point que tu décris, c'est que tu déploies aussi finalement ton architecture cible. C'est-à-dire que non seulement tu définis l'ensemble des projets ou des modules, enfin des choses comme ça, tu décris des choses que tu as customisées dans ton IDE, mais tu décris aussi l'environnement de déploiement, en fait. Là, tu parlais de base de données.
Ouais, exactement. Et en fait, il y a quelques années, j'avais fait une mission chez Amadeus et il y avait plusieurs... On était dans une équipe de maintenance et donc on travaillait sur plusieurs projets, enfin plusieurs agences de voyage. Et chaque projet avait sa propre configuration de base de données, sa propre version de module. Elles étaient à peu près pareilles, mais elles étaient quand même différentes. Et du coup, pour une personne de l'équipe de maintenance, elle devait avoir sur son poste de travail, on va dire, une version de la configuration du déploiement de chaque application pour chaque agence de voyage. Donc tu peux imaginer en fait le nombre de configurations à mettre en place à chaque fois qu'une personne travaille sur un nouveau projet. Et
d'accord.
Ça résout vraiment ce ça peut résoudre en tout cas c'est une des c'est en tout cas moi je vois ça comme une manière de résoudre ce type de problème où tu peux facilement passer d'un projet à un autre. Sans avoir et puis facilement commencer un nouveau projet également lorsque par exemple tu as un nouvel employé qui arrive dans ta boîte et qui va passer 3 jours à configurer son poste de travail dans le cas d'Amadeus dans l'équipe où j'étais bah, il devait le faire tous les mois parce que un coup c'était un bug sur une agence et un coup c'était un bug sur une autre agence et donc on passait notre temps à configurer des environnements notre environnement de développement alors qu'avec du coup le dev file et cette capacité à générer des workspaces ça pourrait se faire en un clic et en plus l'environnement est aussi maintenu contrairement en fait à si c'était tout était décrit dans un fichier README.
D'accord. OK. Alors, j'aime bien souvent prendre le comment j'utilise la techno au quotidien. Donc, c'est le matin, j'ai pris mon café. Je suis passé dans la pièce d'à côté parce qu'on va plus on va plus au travail en ce moment. On va plutôt dans la pièce d'à côté si on a la chance d'avoir une pièce d'à côté pour travailler. Et puis je suis justement nouveau dans la boîte là, donc je fais quoi? Donc j'ai, on va dire que j'ai déjà installé un navigateur. Voilà, donc j'ai Firefox par exemple. Et voilà, c'est quoi la suite là? Je veux créer un nouveau projet.
La suite, c'est que on va te donner un projet, une tâche à faire. Enfin. Déjà, on va t'assigner un projet. Dire voilà, tu vas bosser sur ce projet-là. Et ensuite, pour l'utilisateur chair, souvent, ce qu'on va lui rajouter dans le README du projet Git, c'est un petit bouton, un petit lien pour générer l'environnement de développement pour ce projet-là. Et donc ce petit lien va lire le dev file qui se trouve dans le projet. Donc Che va le parser ce dev file et va donc générer en 1 minute 30 l'environnement qui est déjà prêt à l'emploi avec les bons conteneurs pour l'application cible et également tous les plugins qui sont nécessaires pour le développement. Donc par exemple on pourrait avoir en fait les plugins Quarkus si le backend est en Quarkus et les plugins TypeScript si le frontend est en Node et tout ça est déjà préconfiguré avec aussi des bonnes commandes pour compiler et lancer ton application en mode debug ou comme si t'étais en prod.
D'accord. OK. Donc ça c'est je rejoins un projet et puis mettons que moi j'aime bien J'aime bien une extension particulière, je sais pas moi, l'autocorrecteur orthographique, parce que je fais toujours plein de fautes et j'ai un peu honte. Donc, je veux installer ce truc-là, mais ça fait pas partie des trucs préinstallés par le petit bouton dont tu m'as parlé, parce que c'est pas en standard dans le projet. Je peux avoir mes propres customisations d'une manière ou d'une autre.
Alors oui, alors du coup, ce fichier-là, il permet de générer, mais ensuite, il est utilisé comme état du workspace, un peu comme dans Kubernetes. C'est-à-dire que tu auras un dev file pour toutes les instances de workspace que tu auras démarré. Et tu peux rajouter...
Comme une ressource Kubernetes, tu veux dire,
ouais,
qui décrit l'état cible.
Exactement. Donc, tu peux rajouter, du coup, dans ce dev file qui correspond donc à ton workspace qui tourne, rajouter donc tes extensions à cet endroit-là.
D'accord. Et ça, du coup, c'est spécifique à moi. Comment ça se passe entre différents membres
d'une équipe? Alors, du coup, une fois que le workspace est créé, le workspace, il est juste à moi. Et personne
d'autre.
Oui, il y a un dev file qui est donc partagé avec tout le monde.
Ouais.
Et ensuite, les workspaces sont accessibles et propres à chaque utilisateur.
D'accord. Mais du coup, ça va pas modifier le point dev file qui est à la racine, parce que sinon, si je fais un git commit, je vais le repousser. D'accord. Okay.
Non. Par contre, tu peux très bien repousser des modifications que tu aurais fait en fait dans ton dev file de ton workspace dans celui qui est sur le Git.
D'accord. Et si je suis c'est le premier jour de ma startup, là je démarre je suis fondateur, donc j'ai rien démarré, enfin j'ai pas de projet, en tout cas je viens de créer le repo Git. Comment je fais là pour me dire je démarre, il y a des outils pour m'aider à construire ce dev file, comment
alors ça ouais, alors nous on a la page par défaut de Che, c'est le dashboard, et tu as pas mal d'exemples de dev file que tu peux tester, utiliser. Et donc ce que tu peux faire, c'est créer en fait un nouveau dev file à partir d'un de ces templates, et ensuite le customiser, le modifier. Une fois que tu es content, ben tu peux le pousser sur ton Git.
D'accord. Et je reviens sur les extensions d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une notion de catalogue d'extensions ou est-ce que je peux savoir qu'il y a une extension qui existe et où est-ce qu'elle est? Enfin, je fais pas un téléchargement de fichiers évidemment, mais donc ça se passe comment?
Alors dans Che, on a un truc qui s'appelle le plugin registry. Alors, et toujours dans le dashboard. On a lorsque tu es dans un workspace, tu as un onglet avec la liste des extensions qui sont fournies par défaut et qui sont supportées. Mais rien ne t'empêche, si tu veux rajouter un plugin qui n'est pas dans cette liste, de le créer quelque part, donc comme une ressource HTTP qui serait disponible par Che, et de le rendre disponible du coup pour que Che le charge.
D'accord.
Donc en fait, c'est n'importe quelle extension VS Code finalement.
D'accord. Autre cas d'utilisation, donc je suis nouveau dans la boîte et puis ils font du pair programming, c'est un truc qui est faisable avec les workspaces, est-ce qu'ils sont toujours que pour moi ou est-ce qu'ils sont partageables?
Alors moi j'avais fait un POC pour faire du pair programming dans Che. Alors c'était dans la version d'avant, donc avant qu'on passe à TA, mais ça marchait plutôt bien. Le truc, c'est que faire du pair programming ou partager un workspace, en tout cas l'instance du workspace, ça implique plusieurs problèmes dont on ne pense pas forcément, parce qu'on pense que voilà, c'est évident, le pair programming c'est cool, mais une fois quand on commence à regarder à l'implémentation et ce que ça implique. On se pose quelques questions. Par exemple, si je partage mon workspace, ça veut dire que l'utilisateur, enfin mon collègue, va avoir accès à mes secrets, par exemple ma clé SSH ou d'autres informations qui sont propres à moi et que je ne voudrais pas partager. C'est comme si tu disais voilà, le collègue a accès à ma machine. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de qui qu'on prend en compte en fait lorsqu'on qu'on pense en fait au pair programming et se dire est-ce qu'on veut vraiment le faire et qu'est-ce que ça va impliquer et finalement ça prend plus de temps que prévu. Je pense qu'on va finir par le faire un jour ou l'autre, mais pour l'instant ça traîne pour ces raisons.
D'accord. C'est une très bonne question d'ailleurs. Je ne sais pas si les... quand on fait du pair programming, est-ce qu'on se crée un compte composite, tu vois, John et Emma, et que du coup, quand on fait un commit, c'est John et Emma, et qu'on a du coup nos propres clés, nos propres secrets, etc., mais qui sont de la paire, en fait. C'est une bonne question, parce que même c'est un problème un peu plus fondamental, c'est-à-dire que tu as le même problème sur la machine si tu ne logs pas, quoi. Si tu n'es pas toujours devant... pour être sûr que l'autre personne ne va pas taper, mais si tu fais un peu confiance, à un moment, tu vas aller aux toilettes et laisser la machine.
Ouais, et quand tu y repenses, en fait, tous les outils qu'on a de développeurs, elles sont pas faites pour être partagées. Elles sont pour un utilisateur qui est sur sa machine, et le moyen de partage, c'est Git.
Ouais, d'accord. On parlait de... Enfin, j'ai partagé là ces questions avec les autres, les casques-là. Je crois que c'est Arnaud qui disait « Mais qu'est-ce qui se passe si je veux signer mes commits Git avec ma clé GPG, là il va falloir que je la donne sur le serveur Che. Il faut que j'ai confiance, assez confiance avec Che pour lui filer ma clé GPG, par exemple.
Tu veux dire... alors, j'ai pas très bien compris la question.
Si tu veux signer, tu sais, quand tu peux signer tes commits Git avec ta propre clé d'identification. Et ça, en général, ça reste sur ta machine parce que c'est la même clé, ta clé SSH. On peut peut-être parler des clés SSH parce que c'est le même problème. C'est à un moment, il faut avoir confiance que le serveur, l'infrastructure Che est sécurisée et que je vais mettre mes secrets là-dedans, ou est-ce qu'il y a du trust no one?
Du coup, en fait, c'est le problème dont on parlait juste avant avec le pair programming, c'est qu'on veut éviter justement que ce type de cas arrive, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre puisse utiliser tes clés et en fait les workspaces sont sécurisés d'accès pour les autres utilisateurs. Les autres utilisateurs n'auront pas accès au workspace à tes workspaces. À toi.
D'accord. Mais vous n'avez pas fait un truc du genre, tu sais, dans les systèmes de messagerie, il y a pas mal de dites chiffrées de bout en bout. Il y en a beaucoup qui sont en fait au contrôle de ta clé. En fait, c'est eux qui contrôlent ta clé de chiffrement parce que c'est plus simple pour la plupart des utilisateurs. Mais ça veut dire qu'ils sont capables finalement de déchiffrer au besoin la communication entre toi et quelqu'un d'autre. Il y a quelques systèmes de messagerie qui pour le coup te laissent gérer la clé eux-mêmes. Donc c'est toi qui génères ta clé sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, ce qui fait que tu es au contrôle de cette clé là et que du coup le système de messagerie, c'est vraiment qu'un tuyau qui a zéro moyen de lire tes messages du tout. Après, t'as la responsabilité de pas perdre ta clé. Je sais pas si c'est un truc jour vous essaierez d'explorer.
En fait, dans Che, pour faire du chiffrement, si tu veux faire du chiffrement, tu vas le faire comme si tu le faisais à partir de ton desktop. C'est-à-dire que dans Che, en fait, tu vas pouvoir monter des secrets qui sont à toi dans le workspace et que tu vas pouvoir donc utiliser pour chiffrer tes données, que ce soit en SSH ou autre chose, pour les communications qui vont en dehors du workspace. Et ensuite, entre toi et le workspace, c'est du HTTPS. Donc,
D'accord.
Et c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment.
D'accord. À un moment, tu m'avais teasé sur le concept de factories. Est-ce que tu veux m'en parler maintenant ou on en parle après?
Alors ouais, les factories, les factories, c'est vraiment la fonctionnalité qui permet de générer donc les environnements de développement. Donc ça va utiliser le dev file et ça va donc parser ce dev file et générer donc l'environnement à la demande. Et tout va ensemble, c'est-à-dire que moi Par exemple, quand je travaille tous les jours, j'ai pas en fait un workspace que je vais utiliser pendant 3 mois. Je vais à chaque fois que je vais commencer une nouvelle tâche, je vais me générer un workspace. Je vais travailler dessus. Donc ce workspace, bien sûr, il est fait à partir d'un dev file qui est propre à un projet. Et donc je vais pousser la pull request. Et pendant qu'elle est en mode en review, je vais pouvoir commencer une nouvelle tâche. Donc je vais choisir un dev file parmi les projets sur lesquels je travaille et je vais démarrer un nouveau workspace. Et imaginons que toi Emmanuel tu fais une revue de ma pull request et que tu me demandes de faire une petite modification sur la pull request, par exemple changer faire un fixe. Souvent, les développeurs en mode desktop, ce qu'ils doivent faire, c'est de jongler avec Git. Donc, ils vont faire un Git stash, resitcher sur la bonne branche. Alors, ça marche bien, sauf que parfois, tu travailles sur plusieurs tâches et tu as plusieurs projets Git sur lesquels tu travailles en même temps. Donc, ça peut devenir assez chaotique, ce mode. Là, en fait, les projets sont vraiment, enfin les workspaces sont vraiment isolés. C'est-à-dire que je peux vraiment switcher d'un workspace à un autre, et même éventuellement travailler sur les deux en même temps.
C'était deux répertoires. C'est parce que une autre solution, ce que font certains devs en local, c'est qu'effectivement ils font une copie. C'est pas un Git clone, c'est ils font littéralement ils copient le répertoire et puis.
Ouais, ça correspond un peu à ce mode-là. Et ensuite, une fois que tu as fini, ouais, bah, tu peux tout supprimer. Et tu peux tout supprimer parce que tu sais très bien que tu peux tout régénérer. Et au final, moi, je suis dans un poste où j'ai rien d'installé sur ma machine. Dans le passé, j'avais un dossier GitHub avec plein de projets Java ou autres. Et dans les projets Java, j'avais plein de dossiers target qui prenaient des gigas de mémoire dans mon disque dur. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai plus rien sur ma machine, en tout cas sur le disque dur, c'est tout propre. Quand je peux travailler sur un projet, je lance une factory, donc le dev file, ça me génère, je travaille dessus, et dès que j'en ai plus besoin, je la supprime.
D'accord. Dernière question sur Chip, et après, j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs, mais on parlera de l'expérience de comment on développe dans Theia, quelles sont les différences avec un IDE desktop un peu classique. Comment je l'installe quand je suis le gars de l'infrastructure qui va l'installer pour un gars, ou est-ce que je peux même l'installer moi sur ma machine en local? Est-ce qu'il y a différents modes un peu comme ça ou...
Ouais, alors c'est... Alors, je vais faire un peu de la pub. Le plus simple pour installer Chip, c'est avec un opérateur Kubernetes. Donc, par exemple, sur OpenShift, si tu as un catalogue d'opérateurs que tu peux installer sur ton OpenShift, et tu peux du coup sélectionner comme dans un marketplace, je veux installer Chip, et ça te l'installera automatiquement en quelques clics.
D'accord. Il faut avoir installé OpenShift ou Kubernetes.
Voilà, de toute façon, il faut forcément un Kubernetes ou un OpenShift. Ensuite, nous, on nous fournit également une CLI qui permet de...
un outil en ligne de commande.
Ouais. Exactement, qui permet de simplifier l'installation. Et dans notre documentation, on indique du coup comment on installe avec cette CLI Chip dans différents cloud providers, que ce soit Google Cloud Platform ou AWS. Donc ça te permet d'installer en 3 lignes de commande Chip de cette manière-là. Et tu peux aussi l'installer localement, donc toujours avec cette CLI, si tu as Kubernetes sur ta machine. Par exemple avec Minikube, et je crois qu'il y a d'autres projets qui le font aussi, et donc ça se fait aussi également. Moi personnellement, j'ai arrêté de l'installer sur mon poste parce que finalement j'en avais plus besoin. Je me suis pris un compte chez Google Cloud Platform et donc je lance Che dessus et ça me
D'accord.
et ça me coûte environ 30 € par mois.
D'accord. Ouais, merci de partager, c'est parce que ça c'est toujours la question. Ok, cool. Et du coup, ouais, ok, d'accord. Et du coup, effectivement, comme je disais, on a un peu oublié le... Parce qu'en fait, il y a une peur panique, j'imagine, potentiellement non fondée, du « Ah, mais je vais passer à un IDE, c'est sur du Chrome, ça va pas être une appli native, j'ai peur. » Donc, je sais pas, Marc, est-ce que tu peux rassurer le paniqué en moi, là?
Oui. Donc, en bout de ligne, l'application IDE roule toujours localement, elle roule dans le browser. C'est ça qu'il faut se rappeler. Mm-hmm. Les services, le file system, pouvoir créer des processus sur l'operating system, ça c'est en remote, c'est dans le back-end. Mais réellement, l'état de l'IDE roule toujours localement. C'est pour ça que ça fonctionne très bien avec TA. C'est pas nécessairement le cas avec d'autres IDE. On parlait d'une méthode pour cloudifier certaines vieilles applications qui permet de rouler Eclipse classique dans Che, par exemple. Sans l'avoir essayé moi-même, j'ai l'impression que ça doit pas marcher tout à fait aussi bien point de vue de latence, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Santan?
Moi, je pense que finalement, dans le cloud, il y a quelques avantages. Par exemple, dans le cloud, on a un réseau qui est super rapide. Et en fait, j'ai fait un peu le test. En fait, j'ai essayé d'installer un projet Maven sur ma machine et et dans le cloud. Et malgré le fait que j'ai la fibre optique, je suis quand même en Wi-Fi et donc il y a cette restriction-là et qui fait que télécharger dans le cloud, ça, c'était 20 fois plus rapide. Je dis ça au hasard. En fait, en gros, t'auras moins de problèmes de réseau en fait dans le cloud que sur ta machine.
Mais là, tu parles de l'installation les téléchargements initiaux du projet ou quand tu vas refaire tourner une Maven install ou ce genre de choses.
Ouais, je parle de finalement on télécharge de plus en plus de choses quand on développe aujourd'hui avec les conteneurs, on va souvent télécharger
des images.
Maven, on sait très bien que on parle de télécharger le monde quand on parle de choper les dépendances Maven.
C'était avant NPM, hein, maintenant.
Voilà.
On utilise plus ce mot-là parce qu'en fait, on fait tous. mais je pense que le point de marque est intéressant, c'est ce que tu dis, si je résume, c'est qu'attention, il y a quand même beaucoup de choses où on attend son IDE ou son environnement de travail de manière générale, parce qu'on télécharge des ressources qui sont lointaines, que ce soit des containers ou des jars ou peu importe. Et donc ça, c'est pas mal amélioré si t'es dans un backbone, si t'es sur un serveur qui a un bon backbone, parce que pour le coup, tu battras pas ton Wi-Fi.
Ouais, et en termes de réactivité, ça change pas trop parce que finalement le JavaScript est téléchargé dans le navigateur et du coup tout est une question de comment bien gérer le cache et c'est un peu comme pour toute application cloud. Aujourd'hui, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que mon Google Doc va bien répondre en fait au niveau réactivité et latence ou pas, ou est-ce que mon Gmail va bien répondre ou pas? Tu vois, c'est...
Ouais. Bon, après, Google Docs, il me saoule quand mon réseau est perdu, enfin plutôt la connexion à Google est perdue pour une raison ou une autre. Et donc, tu es là, tu veux éditer ton fichier, tu le vois, mais tu peux pas faire grand-chose. Donc, des fois, c'est un peu frustrant. Mais la question spécifique de Marc, c'était Broadway, c'est par exemple... Enfin, il y avait deux exemples. Il y avait l'approche VNC, où là, littéralement, on fait une connexion à un serveur distant. Et donc là, j'imagine pour le coup, la latence, elle est pas forcément tip-top au niveau de l'autocomplétion et ce genre de choses, parce que tu vas aller quand même télécharger l'image qui dit voilà, j'ai fait mon autocomplétion. Broadway, ils font comment en fait? Ils arrivent à.
Broadway, alors je ne sais pas trop, je pense qu'ils interceptent en fait des appels système de GTK et ils la retransforment en fait en WebSocket.
D'accord.
Après, je.
Mais du coup, en gros, c'est je fais contrôle espace, ça c'est envoyé sur la WebSocket, c'est interprété là-bas et ça revient. Donc, ce que dit Marc, c'est que le contrôle espace, il est interprété et exécuté. Enfin, plus de choses sont exécutées en local dans une approche à la TA.
Donc, il y a plus d'intelligence en fait. Alors, nous, on travaille quand même pour faire en sorte que d'optimiser tout ça dans le navigateur pour que ce soit assez transparent pour l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'on va essayer de minimiser les appels et faire en sorte que pas mal de choses soient mises en cache, par exemple dans le navigateur, et pas forcément téléchargées. Donc il y a ce choix de bien choisir ce que l'on transfère ou pas. Un peu comme si c'est la différence entre faire des appels réseau pour afficher du graphique versus faire des appels réseau pour transférer des données, tu vois. Et finalement en fait quand on transfère des données, c'est souvent en tout cas dans nos cas beaucoup plus optimal, mais c'est un choix d'optimisation.
Ouais. Marc, autre question, parce que dans les débuts des IDE dits cloud, en fait, il y avait même pas l'autocomplétion, il y avait en gros de la coloration syntaxique et un outil pour éditer. On avait VI avec la coloration syntaxique. Sans l'approche spécifique de VI, mais c'était vraiment un éditeur de texte en fait, avec coloration syntaxique. On en est où maintenant quand on se dit, on compare avec Eclipse classique, IntelliJ IDEA, ce genre de choses?
Oui, une des choses qui a été inventée entre-temps qui aide beaucoup, c'est le Language Server Protocol, LSP. Donc, en utilisant LSP, on peut beaucoup plus facilement ajouter du support pour un ou plusieurs langages par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant, en gros, il fallait ajouter l'intelligence pour chaque langage dans chaque éditeur ou IDE. Maintenant, en utilisant LSP, on peut faire abstraction de ça puis réutiliser la partie serveur qui fournit l'intelligence. Donc, ça, c'est une des grosses améliorations qu'il y a eu par rapport à l'ancienne génération qui rend les choses beaucoup, beaucoup plus faciles maintenant.
D'accord. Mais justement, là, c'est intéressant. Là, on parlait justement de l'autocomplétion. Donc là, j'ai commencé à taper le début de ma méthode et je fais contrôle espace. Là, avec l'approche LSP, ça va sur le serveur. Donc là, on va sur le serveur et on va dans la partie serveur du language server protocol qui va lui me dire l'autocomplétion, voilà les options, et ça revient au niveau du client, c'est ça?
Ou exact.
Il y a des. OK. Il y a des choses qui peuvent être cachées plus que ça, un peu plus agressivement. Est-ce qu'il y a une...
LSP est designé pour être que le client soit complètement le plus simple possible. Aucune intelligence, il va juste montrer ce que le serveur lui dit de montrer. Donc, c'est ça l'idée de LSP en gros. Je connais pas de cas où il y aurait... je crois pas qu'on fait du caching. En tout cas, au niveau de TA, on va juste redemander au serveur si jamais on essaie la même completion, par exemple.
D'accord. Donc, la clé, c'est que vous êtes là où vous avez bossé à fond, c'est l'éditeur de texte qui doit être le plus agréable possible. Et en fait, l'intelligence, c'est l'interaction avec LSP. Est-ce que c'est trop simplificateur, ce que je viens de dire?
C'est un bon résumé, mais on n'a pas eu à faire l'éditeur, en fait. On réutilise l'éditeur Monaco de Microsoft, qui est aussi utilisé dans VS Code, par exemple.
D'accord. D'accord.
Donc, ils supportent déjà très bien LSP.
D'accord. On a déjà parlé des flots de développement. Est-ce que de développeurs entre l'IDE local et l'IDE distant, il y a des choses que vous voulez rajouter dessus? Ah, peut-être TIA en mode desktop. On parle des LSP là. Est-ce que c'est à moi de démarrer ces fameux process derrière ou c'est quand même géré pour moi là, une fois que j'ai téléchargé mon application
Normalement, c'est géré. Il y a certains LSP qu'il faut installer manuellement. Ou il faut installer parfois le language server manuellement, mais de plus en plus, le client va offrir cette fonctionnalité-là s'il ne trouve pas le language server.
D'accord. D'accord.
Mais donc, cependant, ouais. Contrairement à Chip, les autres workspace servers, sur un desktop, c'est attendu que le client va installer lui-même son environnement. Donc, c'est un gros avantage des workspace servers. Un bouton, clic, et puis on a tout ce qu'il faut.
Ouais. Oui, ça, après, du coup, c'est une expérience qui se rapproche plus de l'IDE classique, du coup.
Mm-hmm. Exact.
En télécharge, on l'amène, c'est... Oui. D'accord.
Très similaire à VS Code, dans le fond, en l'utilisant en mode desktop.
Vous avez des modes, est-ce que vous avez fait des choix, en fait, il y a un truc qui est très difficile, c'est tous les muscles, la mémoire musculaire sur les raccourcis, les choses comme ça. Vous êtes comme tout le monde et vous avez dû faire des ponts entre, ben voilà, les raccourcis type Eclipse, voilà, les raccourcis type IntelliJ. Est-ce que vous avez inventé vos propres raccourcis? Ça s'est fait comment?
Donc, pour l'instant, non. On a eu tendance plus à réutiliser les raccourcis de VS Code, comme on inclut certains des composantes importantes de VS Code, comme le Command Palette. Ça aurait été probablement non intuitif de juste réinventer des nouveaux raccourcis. Donc, je pense pour la plus grosse partie, on réutilise ceux de VS Code, mais en principe, ce serait possible de customiser.
D'accord. OK. Ouais, est-ce qu'il y a des flots de développement dont on n'a pas parlé, là, Marc ou Sun, qu'il faudrait mentionner?
Je peux peut-être en mentionner un. C'est pour le développement que je fais dans le projet Eclipse TA lui-même, moi personnellement, mais aussi certains des collègues puis d'autres contributeurs. Donc, il y a un autre workspace server qu'on utilise ou que plusieurs utilisent pour ça. Il s'appelle Gitpod, qui est un produit de Typefox, la compagnie qui a créé TA avec Ericsson. Donc, Gitpod intègre avec GitHub, GitLab et puis quelques autres. Puis ça permet, c'est possible d'ouvrir une page, par exemple, de GitHub avec Gitpod. Et puis Gitpod, selon le contexte, va faire la bonne chose. Donc, par exemple, si on est sur une page GitHub d'un pull request, d'une patch qui est soumise pour review, on peut ouvrir cette page-là dans Gitpod et puis on va avoir à ce moment-là le review, la vue de review. Ça va être possible de mettre les commentaires dans l'instance basée sur TA qui roule dans Gitpod. Et automatiquement, le repository est cloné, la bonne branche est sélectionnée. C'est pré-buildé également, donc la deuxième personne qui va cliquer pour ouvrir le même pull request, normalement, ça va être très rapide. Le build n'aura pas à se reproduire, il va être réutilisé de la fois précédente. Donc, quand quelqu'un veut faire un review, par exemple, on clique sur le bouton, on a déjà, la plupart du temps, tout est buildé, il suffit de même l'instance de test de TA, celle qui contient les changements, et lancer automatiquement quelques secondes après que le workspace démarre. Donc, ça enlève énormément de friction, des petites choses qui sont pas productives, mais qui sont nécessaires de cloner le repo, builder, etc. Donc, quelque chose qui aurait pris une heure avant peut prendre parfois 5-10 minutes.
Ouais, tu dis un truc intéressant, c'est Gitpod, en tout cas là, dans son approche pour request, il partage le build. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable avec Che? Est-ce que c'est juste qu'on est en train de dire qu'on partage le Maven, le repository intermédiaire Maven, ou on parle d'autre chose là? Tu vois, Marc disait que Gitpod, donc il y a le premier qui fait la pull request, qui va avoir le temps de build qui va être pris, mais après, un deuxième qui va vouloir faire la revue de la pull request, et du coup qui va finalement instancier un workspace Gitpod. Le build, tout ce coût de build est partagé finalement entre ces deux workspaces, de ce que j'ai compris. C'est des choses qui sont customisables aussi avec Che, où vous favorisez plutôt l'isolation des workspaces et que c'est un choix, un choix philosophique par exemple. Enfin,
alors oui, alors nous, effectivement, on ne partage pas le résultat du workspace, enfin le contenu du workspace, ou que ce soit en termes de dépendances qui ont été pré-buildées, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pour optimiser et ne pas avoir, en fait, par exemple, à retélécharger toutes les dépendances Maven, c'est qu'il y a des astuces pour dans la CI, faire le build et générer un conteneur qui du coup contiendrait juste les dépendances Maven dont aurait besoin un workspace. Ce qui fait que lorsque Workspace démarre, il va pouvoir récupérer le conteneur et copier du coup copier le contenu du des dépendances Maven dans ce dans le workspace. Et ça du coup améliore un peu les ça améliore les performances, enfin les en tout cas le temps de chargement car étrangement c'est plus rapide de télécharger un fichier, donc une image conteneur, que les 150 voire plus dépendances Maven en HTTP.
D'accord. OK.
Donc je voulais juste mentionner, dans le cas de Gitpod, le pre-build qui est partagé une fois que le build est fait, par exemple un pull request que les autres peuvent réutiliser, à ce moment-là, il n'y a rien de secret qui est partagé. Donc, par exemple, la clé SSH de l'usager, tout ça, ça ne va pas faire partie de ce qui est partagé dans le pre-build. C'est seulement dans le fond, le repository sur lequel tu travailles, il va juste être rebuildé pour éviter d'avoir à le refaire. Donc, certains projets, un build, c'est une minute. Certains projets, c'est beaucoup plus long. Ça peut sauver beaucoup de temps de ne pas avoir à le refaire. Puis, ça ne met pas en danger aucune donnée, des clés SSH, etc. Ça ne fait pas partie de ce qui est partagé.
OK, mais c'est une bonne idée.
C'est ça. Et ben, du coup, on va peut-être passer... Enfin, on va discuter de l'architecture, mais je pense qu'on l'a déjà dessiné un petit peu. Donc, j'ai mon navigateur... j'accède à une, donc je clique sur un bouton, enfin bref, en gros j'accède à une URL qui va télécharger en gros le code Theia, enfin l'ensemble de code TypeScript, JavaScript, etc. de Theia qui va instancier mon environnement, mon IDE, enfin qui va représenter mon IDE dans mon navigateur. Ça c'est hosté par le serveur Che d'une manière ou d'une autre, dans Kubernetes. Donc là, on passe par les fameuses routes et les... peu importe, mais on récupère ça donc du serveur Che. Ensuite, non, est-ce qu'il y a un truc que j'oublie là-dedans ?
Alors, c'est pas exactement ça. Je sais pas
ok,
si
vas-y.
Alors, en gros, en fait, tu as un Che serveur. Donc, il n'y en a qu'un seul par cluster Kubernetes, qui, lui, va créer donc un pod, qui va contenir plusieurs conteneurs. Donc, c'est les conteneurs qui sont définis dans le dev file. Et par défaut, il y a un des conteneurs qui est donc Theia, qui donc va servir l'interface graphique utilisateur. Et donc, ce qui veut dire, c'est que dans Che, en fait, on a un serveur, enfin, un conteneur par workspace que tu lances, un conteneur pour l'IDE, pour l'IDE Theia. Je ne sais pas si je suis clair.
Ben on verra. D'accord.
Donc on le a code de Theia est un peu plus simple, peut-être que ça vaudrait la peine de le mentionner, c'est un peu plus facile à comprendre.
De quoi?
Oui, donc Theia, c'est une application à la base Node.js. Donc, il suffit de démarrer cette application-là, ce qu'on appelle le back-end normalement, quelque part. Ça peut être sur la machine locale, ça peut être sur une machine remote. Et puis après, en utilisant un browser web moderne, on connecte sur l'URL et le port en question. Ça peut être par exemple localhost port 3000 ou ça peut être un serveur quelconque avec un port quelconque. Donc à ce moment-là, le browser va downloader l'application Theia front-end du back-end. Et puis, une fois que c'est terminé, l'application démarre, puis la connexion avec le back-end continue. Et puis, le back-end peut fournir les services, le file system, les language server, etc. Et puis, dans le browser, c'est l'état de l'IDE dans le browser. Par exemple, si on, une fois qu'on ouvre un fichier, qu'il est dans l'éditeur Monaco dans le browser, il n'y a plus besoin de retourner au back-end tant qu'on ne va pas, par exemple, sauvegarder le fichier. Il est dans la mémoire du browser, donc si on navigue, on fait page up, page down, il n'y a aucun besoin d'aller demander de l'information au back-end pour faire ces opérations-là, ce qui donne l'illusion vraiment que l'application roule localement. Ça fait une grosse différence par rapport aux applications classiques qui pouvaient pas rouler comme ça, qui devaient utiliser, par exemple, VNC avec un lag énorme.
D'accord.
Ouais, moi j'ai une autre manière d'expliquer Che pour si c'était pas très clair avant. c'est un petit clin d'œil à Arnaud. Alors en fait, je sais pas si tu vois les Jenkins files. Donc dans Jenkins, tu as les Jenkins files qui permettent de lancer des jobs pour faire un build par exemple. Alors le dev file, c'est comme le Jenkins files. Sauf que il y a des informations pour coder et chaque job qui va être lancé ce serait l'équivalent en fait d'un workspace dans Che et on peut imaginer que Che finalement un workspace Che ça serait un job Jenkins qui serait interactif dans lequel tu pourrais éditer le code, lancer tes builds à la demande, etc.
D'accord.
Sunpan, je vois un gros avantage à Che par rapport à Jenkins. En tout cas, de la façon que j'ai vu Jenkins être utilisé, généralement, la configuration Jenkins, elle est dans Jenkins. Donc, il faut l'updater. Si on recule un peu dans le baseline de l'outil, des fois, la configuration ne va plus correspondre. Alors que dans Che, normalement, on va mettre le config file dans le repo, n'est-ce pas?
Alors, je crois que dans Jenkins, ils font un peu la même chose avec les Jenkins files.
Ah, ils le font maintenant? OK.
Je suis pas un expert, mais...
Ah, c'est possible. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas utilisé. Mais, donc, le gros avantage, c'est que peu importe le baseline, normalement, il va avoir la configuration qui correspond.
D'accord. Donc, pour revenir à... Alors, je vais amender ce que j'ai dit. Du coup, donc, on a un Che server sur lequel on va pouvoir lui dire je veux créer un workspace. Donc ça fait partie de l'interface Che, j'imagine. Et donc le Che workspace, ça va créer un certain nombre de pods, dont le pod TA, si on souhaite TA en front-end. Et puis des trucs du genre les language server protocol du projet qui va bien, etc., etc. Tout ça dans son namespace cube ou dans l'environnement cube en tout cas. Jusqu'ici tout va bien?
Oui, donc ça va créer des conteneurs, pas des pods. Donc un workspace, ça sera un pod. Okay. Ouais, voilà.
Un workspace entier, ça sera un pod avec plusieurs conteneurs associés.
Exactement.
À ce pod.
Exactement.
D'accord, ok. Ok. Et du coup, il y a la notion de debug server. Donc, j'imagine, c'est plus VS Code extension. Language Server Protocol VS Code extension. C'est quoi un debug server? Comment ça interagit avec le language server du, mettons, Java? C'est un seul truc, c'est plusieurs trucs. Comment ça se passe? Si vous avez.
Alors, le debug server, c'est un peu comme ce qui se passe en fait avec le langage serveur protocol. On a le debug adapter protocol, je crois, qui donc définit aussi l'interface qu'il y aura donc entre les IDE et le debugger. Et donc un debugger, par exemple, si tu prends un debugger TypeScript ou un debugger Java, tu as à peu près les mêmes fonctions, donc breakpoint, resume, etc., etc., change local variable ou ce genre de choses. Et tout ça, donc, on peut le définir dans un d'un protocole et du coup avoir une implémentation par IDE. Et ça c'est possible grâce au debug adapter protocol qui permet donc ce genre de choses, et c'est ce qu'on utilise dans Che et dans TIA.
D'accord.
Après ce qui se passe dans la réalité, c'est que on va souvent s'interfacer avec l'API de VS Code, c'est-à-dire que vu que finalement on supporte complètement l'API de VS Code. Faire en fait une extension VS Code qui va marcher sur VS Code va marcher sur Che. Donc, on se pose plus vraiment la question de savoir Est-ce que je dois faire un debug serveur pour telle idée ou telle idée? Nous, en fait, on prend juste l'extension VS Code et ça marche.
Il y a une question très personnelle d'un certain A, Cascoder. Est-ce qu'il reste quelque chose de l'Exo Cloud IDE qui est finalement à la fin? En tout cas, en termes d'idées et d'équipe, voilà, il y a eu l'Exo Cloud IDE qui a eu une donation à la fondation Eclipse, qui s'appelle Eclipse, enfin, qui a donné Eclipse Chez. Donc, est-ce qu'il reste des morceaux là encore ou tout ça c'est...
Alors ouais, je pense qu'il reste une chose parce que, enfin, il reste pas grand chose, mais je pense qu'il reste tout ce qui est génération de workspace, donc la partie factory. Donc qui permettent de générer des environnements à la demande. Et je pense que ça doit être en tout cas une c'est toujours là et ça a été amélioré bien sûr forcément, mais on n'a pas remplacé ça par autre chose. Et c'est toujours là. Et c'est la seule chose qui restait du coup de
D'accord. Ouais. Oui, parce que c'était pas Kubernetes. Avant, j'imagine que c'est Kubernetes, voilà. C'était un peu.
Ouais, avant, alors je crois qu'avant, il n'y avait même pas de Docker, parce qu'on a eu une transition avec Docker. Où, du coup, tu portais Docker plutôt Kubernetes. Et avant, c'était vraiment juste un serveur Java qu'on lançait, en fait, dans le cloud.
D'accord. Voilà. À l'époque, ça s'appelait pas des clouds, ça s'appelait des data centers. C'est ouf. et pareil, évidemment, la partie front-end donc, a été remplacée par Teia
Donc, la partie front-end, avant, on avait un front-end qui était en GWT. Et puis, il y avait la contrainte que les plugins, pour les installer, il fallait recompiler l'application GWT. Alors c'était un peu le cas dans Teia quand on a commencé à travailler dessus. C'est-à-dire que pour ajouter une extension Teia, il fallait recompiler l'application Teia et pouvoir les intégrer. Ça fait partie des contributions que Red Hat a fournies dans Teia. C'est donc la possibilité de lancer des plugins dynamiquement sans avoir à recompiler l'application. Du coup, on s'est rendu compte à un moment donné que notre API, elle ressemblait beaucoup à celle de VS Code. On s'est aperçu que facilement, on pouvait très bien réutiliser l'API de VS Code pour supporter des extensions dans Chez et dans Teia. Et donc, du coup, c'est le travail qu'on a fait ces trois dernières années, je pense, sur Teia. Et il y avait aussi la possibilité de lancer une extension dans un autre process que celui de Teia. Par exemple, nous, dans Chez, lorsqu'on installe le plugin Java, on va installer l'extension VS Code Java plus un conteneur qui contiendrait juste ce qu'il faut pour faire tourner ce plugin, donc qui contiendrait donc Java et peut-être Maven ou autre chose. Ce qui fait que l'utilisateur, quand il crée en fait son workspace, il n'a pas besoin de, s'il le fait avec Docker par exemple, il n'a pas besoin de redéfinir son workspace pour ajouter en fait les dépendances dont auront besoin ces plugins. Il va pouvoir, un peu comme dans Docker Compose, ajouter des conteneurs qui vont contenir des bonnes dépendances pour les plugins. C'est un peu le l'héritage versus la composition, pour résumer.
D'accord. Ok.
Santan, laisse-moi mentionner, tant qu'à moi, le système de plugin que Red Hat a contribué, c'est probablement une des choses qui a influencé le plus la direction du projet Teia. Je crois que ça fait une couple d'années que c'est en place et que ça améliore depuis. Mais maintenant, c'est rendu une partie centrale de Teia. on peut même plus ajouter des langages de programmation sans utiliser un plugin ou une extension VS Code, alors qu'on pouvait avant. Ça marche tellement bien maintenant qu'on a abandonné, dans le fond, l'interface spécifique à TA pour ajouter du support pour des langages et puis des debuggers. On utilise exclusivement l'interface de VS Code maintenant.
Ouais, c'est intéressant. Ça me rappelle un peu, les analogies sont ce qu'elles sont, mais ça me rappelle un peu la standardisation autour de Kubernetes qui a permis à des gens de dire, bon, au lieu d'avoir une intégration Mesos, une intégration machin, une intégration Kubernetes, quand Kubernetes est arrivé et que tout le monde s'est cristallisé autour de ça, du coup, maintenant, les gens disent, bon, je fais mon support Kubernetes et puis du coup, c'est un peu une zone franche ou un langage commun. Du coup, là, finalement, les API VS Code, sans parler de VS Code lui-même, mais les API VS Code et le Language Server Protocol, au niveau des IDE, a été un peu ce cristallisant. J'ai l'impression.
En effet.
On va parler communauté, d'ailleurs. Donc Ericsson et... comment s'appelait le... C'est Fox quelque chose ? Désolé, j'ai oublié le nom.
Fox.
Ouais, vous avez créé le projet et ensuite, comment il y a eu beaucoup de gens qui sont venus autour pour vous aider. Donc là, on a parlé de la contribution de Red Hat. Et comment ça se passe au niveau communautaire? Vous avez vu ça grossir avec plaisir?
Donc, les gens ont tendance à penser qu'on crée un projet open source puis qu'il va y avoir une foule qui vont immédiatement venir contribuer, mais ça se passe pas exactement comme ça.
C'est comme Rockstar, tu te dis, je vais avoir tout de suite plein de gens qui vont être sous mes fenêtres et puis rien du tout au début. Ouais.
Je pense que les chances sont à peu près les mêmes de devenir un rockstar puis d'avoir un projet open source qui fonctionne, disons, à partir du jour 1, c'est à peu près les mêmes chances, je pense. Donc, ça prend un certain temps. Ça prend environ un an, je pense, avant que Red Hat soit vraiment intéressé et qu'il se joigne au projet. Puis ça a été la première, je pense, grosse compagnie qui s'est joint à nous, qu'on a vraiment senti que ça allait bien à ce moment-là, qu'on avait fait un gros pas. Et puis, il y a d'autres compagnies.
Oui, parce que ça change, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais quand on se met à dire, c'est pas les fondateurs initiaux, là, on rajoute une personne, il y a beaucoup de discussions sur les process, la façon dont on fait les choses, parce que les gens viennent avec aussi leurs approches. Et du coup, il faut avoir de l'ouverture, non seulement il faut que ça soit attrayant, mais il faut avoir de l'ouverture en tant que fondateur initial, de dire ok, on va accepter de faire évoluer les choses. Là, on a parlé des plugins dynamiques, par exemple. C'est pas facile comme virage. Ouais.
Oui, c'est tout le temps un trade-off dans la vie. Il y a tout le temps du pour et du contre, mais je crois que c'est clairement que Red Hat se joint au projet, ça a été un net très positif. par après, d'autres se sont joints. Maintenant, il y a des committers de ARM, de SAP, puis de quelques autres compagnies, on en a un de Google, entre autres. Donc, la communauté a quand même pas mal évolué dans les deux, trois dernières années depuis qu'on a démarré le projet. Et puis, on voit aussi qu'il y a des étendards comme Red Hat réutilise TA dans Che. Et puis, c'est le cas pour la plupart des contributeurs. La plupart des compagnies qui contribuent ont des produits, un ou des produits qui sont basés sur TA. Donc, ils ont quelque chose à gagner puis quelque chose à perdre. Il faut qu'ils prennent soin ou qu'ils aident à prendre soin du projet avec nous.
Ouais. Ça a été un des gros défis. Michael, il va me tuer pour dire ça, mais c'est un des gros défis de Eclipse classique, c'est que ça a été un peu la tragédie des communs quand IBM s'était pas mal retiré au niveau investissement, c'est que pas mal des gens s'appuyaient dessus, mais voilà, de là, comme il y avait IBM qui contribuait beaucoup, la transition à ce qu'il y ait un équilibre avec les gens qui dépendent d'Eclipse et qui contribuent dessus a pas été facile pour le coup.
Oui, j'étais pas encore impliqué à ce moment-là, mais je peux imaginer que c'était le cas en effet. Donc, les compagnies qui contribuent en open source doivent rien aux autres compagnies. Ils le font de leur propre volonté, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils le font aujourd'hui qu'ils vont continuer à le faire demain. Red Hat étant peut-être une exception, étant basé sur l'open source. Mais généralement, il y a un besoin commercial, puis... Avec les changements, les temps changent, parfois le besoin ou le motif commercial n'est plus là. faut que la communauté vive avec à ce moment-là. C'est au reste de la communauté de faire un petit effort supplémentaire.
Super. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je sais pas, toi, ton expérience. Donc, tu dis des fois, Ericsson travaille sur des choses très secrètes et là, tu travailles sur un truc très ouvert. Donc, ce pas-là, comment ça se vit là en tant que… Ericsson n'est pas open source, évidemment, hein, mais
ouais.
Comment ça se…
C'est pas toutes les compagnies non plus qui sont dans l'open source autant que Red Hat, puis qui vont connaître ça, puis être prêts à s'engager pleinement. Donc, pour d'autres compagnies, ça peut être un défi, puis un défi aussi de laisser les gens qui travaillent en open source vraiment être ouverts pour cet aspect-là, mais tout en protégeant les informations puis les choses internes. Donc, c'est toujours un trade-off. Certaines compagnies le font mieux que d'autres. Je suis très content que nous, que mon équipe, puis que Ericsson ait créé TEA, ait participé à la création de TEA, puis continue à travailler dessus. Très fier que ça a fonctionné. Les chances étaient probablement contre nous au départ. Mais disons, là, on a quelque chose qui fonctionne, qu'on peut mettre dans des produits, puis que les gens peuvent utiliser. C'est très, très, très satisfaisant.
D'accord, super. Voilà, un mot de la fin pour de vrai, là? Ou je sais pas, Sun, si tu voulais rajouter des choses, ou on est bien, là?
Oh, non, je n'avais pas grand-chose à rajouter.
Ouais, j'encouragerais les auditeurs à essayer certains des produits dont on a parlé aujourd'hui. Souvent, d'entendre, c'est une chose, mais de le vivre vraiment, de l'essayer, c'est autre chose. Puis de travailler sur un workspace qui est quelques milliers de kilomètres de distance, mais qui donne l'illusion plus ou moins qu'il est local, c'est une expérience intéressante.
D'accord. Donc là, on a parlé de Eclipse, évidemment, et de GitHub.
Non, Gitpod.
Gitpod, pardon, je n'ai pas y arrivé. Gitpod. Voilà, donc ça, c'est deux exemples qui s'appuient sur TEA. Que les gens peuvent essayer pour avoir un peu ce ressenti.
Oui.
Cool.
Ouais. Je pense qu'il faut, faut vraiment essayer. Alors nous, côté de chez, on a chez.openshift.io qui est donc un moyen d'essayer chez. Alors c'est vraiment pour essayer parce que c'est bien sûr c'est gratuit et rien n'est gratuit vraiment. Vous allez pouvoir lancer donc des workspaces pour des projets assez simples. Ça sera limité en espace disque et RAM et CPU bien sûr, évidemment. Mais sinon, moi, comme je le fais, je me suis installé chez sur GCP et ça m'apporte tellement de liberté, de pouvoir en fait du coup. Si tester de nouvelles technologies, par exemple tester Quarkus et GraalVM sans forcément casser le setup de mon projet en cours, et de faire ça tout ça à la demande sans rien avoir installé sur ma machine, je trouve que c'est un gain énorme en productivité qu'on ne trouve pas en fait dans les environnements de développement desktop. Voilà.
Ah, d'ailleurs, si j'avais cette question que j'avais oubliée. Est-ce que du coup, ça va permettre à mon employeur de me payer un ordinateur beaucoup moins puissant?
Alors du coup, j'ai fait un peu le calcul parce que j'ai commencé à me lancer ce serveur sur GCP. Parce que justement je changeais d'ordinateur et que finalement mes 8 gigas de RAM ça me suffisait pas pour mes développements, et donc je regarde quand tu regardes en fait le prix d'un ordinateur d'un laptop avec au moins 16 ou 32 gigas de RAM, c'est pas donné, et finalement quand tu fais le calcul récupérer de la ressource en fait dans le cloud à la demande te permet d'économiser parce que tu vas du coup payer moins pour ton laptop, et tu vas le garder plus longtemps dans le temps. Et du coup, c'est beaucoup plus écolo, beaucoup plus plus économique, etc., etc.
D'accord. Mais t'as fait un ROI du coup ?
Non, je l'ai pas fait. Je pense pas que ça sera accepté.
D'accord. Mais en tout cas, c'est un point à essayer de se challenger là-dessus pour regarder. Okay. Ben, merci beaucoup de cet échange-là. On espère qu'on a donné un peu de... Ben, déjà, une meilleure compréhension de ce que c'est un cloud ID plutôt que un nuage un peu abstrait pour les gens. Et puis, que ça les intéresse et qu'ils essayent l'un ou l'autre, enfin l'une ou l'autre de toutes les options disponibles pour voilà, essayer, c'est l'adopter. J'ai l'impression que c'est votre c'est votre mantra. Alors, en tout cas, merci, voilà, merci d'avoir partagé avec nous, et puis merci aux auditeurs d'avoir écouté.
Merci les casteleurs.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.